importantes. Il y a le mariage du marquis de Sade d'Alice Laborde chez Champion, dont nous avons déjà parlé. Il y a le Annie Lebrun, Sade aller-retour chez Plon. Il y a le Gilbert Lely, la vie du marquis de Sade, que vous avez préfacé au Mercure de France. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis alors, il y a cet inédit, donc Sade contre l'être suprême, une petite plaquette qu'est Voltaire. Sade, quand même, vous dites dans le numéro de l'Infini, par exemple, vous parlez de Sade et vous mettez Sade du côté des vrais révolutionnaires avec Madame, avec les Girondins, par exemple, alors que les terroristes, dites-vous, c'est-à-dire Robespierre, Saint-Just, seraient au contraire des contre-révolutionnaires pour vous. Enfin, toujours est-il que vous mettez Sade dans le même lit que Madame Roland. Je ne sais pas si Madame Roland aurait accepté cette promiscuité.
C'est pas moi qui le mets. C'est une vérité historique qui est très peu connue des Français. Ouais. Justement, ouais. Si le livre de Gilbert Lely, La vie du marquis de Sade, est si important, c'est qu'il est le premier à avoir fait le déchiffrement d'archives, le travail historique qui présente Sade, non pas comme quelqu'un qui est tombé d'une autre planète, avec son sadisme, non pas comme un monstre abstrait, mais comme un homme de chair et de sang qui a vécu et qui a eu une histoire très minutieuse et très, très passionnante d'ailleurs. Ouais. Donc c'est pour ça que le livre de Lely est un très grand chef-d'œuvre, j'emploie ce mot peu souvent. C'est un livre absolument magnifique qu'il faut lire pour voir comment, tout simplement, la vie et l'œuvre de Sade ont pu se produire à cette époque. Alors tout le monde rêve autour de Sade, on en a fait un concept psychanalytique, psychiatrique, les criminels sont sadiques, nous sommes tous sadiques, etc. Mais peu de gens connaissent la vie de Sade. Il faut connaître sa vie. Et alors si vous dites, je le mets dans le livre de Mme Roland, mais non, mais c'est ce fameux texte de condamnation à mort de Sade par Fouquier-Tinville que Lely a sorti, hein, et c'est un texte irréfutable puisqu'il n'a dû la vie sauve qu'au fait on ne l'a pas trouvé dans sa prison à l'appel de son nom. Il y avait à ce moment-là un certain désordre. Il faut rappeler que Sade, qui a été, comme il le dit lui-même, détenu sous tous les régimes, a vécu la révolution à moitié en prison. C'est-à-dire en 93, par exemple, il est arrêté. Le petit inédit là, auquel Voltaire y fait allusion, c'est une lettre qu'il aurait écrite à la fin de 1793. Il se retrouve à Picpus, ce que peu de gens savent, par exemple, avec Laclos. Ils attendent les événements. Sade et Laclos en prison entre 94, c'est quand même étonnant. Ils ne sortiront que grâce aux neuf thermidors. Mais l'acte d'accusation de Fouquier-Tinville est absolument formel. Sade est accusé de prôner le traître Roland, donc d'activité girondine.
Pour en revenir au sadisme, le sadisme est un concept un peu flou, puisqu'il barre par exemple par
le sadisme a été inventé pour éviter de connaître le marquis de Sade.
Le sadisme ménager dont parlait Sade, puisque Barthes disait, dans certains cas, lorsque les femmes avec qui il était refusaient un martinet trop violent, eh bien, Sade employait un petit balai de bruyère, c'était plus délicat.
On connaît par le livre de Lely les principaux actes de Sade qui lui ont valu d'être emprisonné, et le dossier qu'il a suivi toute sa vie. Il y a une séance très fameuse, où il a 23 ans, qui est une séance d'impiété tout à fait caractéristique, avec une prostituée d'ailleurs enceinte jeune, de 19 ans je crois, Jeanne Testard, à qui il a demandé, n'est-ce pas, de se livrer à des blasphèmes très horribles, ce qui pour l'époque coûtait très cher. Donc bizarrement, il n'a pas été arrêté à ce moment-là, mais ce dossier l'a suivi constamment, et sa belle-mère, à un moment donné, s'en est servie pour la lettre de cachet qu'il a mise à Vincennes. Et ensuite, l'aventure de Sade continue.
Alors
il y a l'histoire des putains de Marseille qui est venue, ça c'est du bonbon cantaril, etc. Mais dans la vue, au fond, il a fait assez peu de choses, de choses horribles.
Alors la belle-mère et la femme, justement, sont des personnages sur lesquels on est revenu, parce qu'on a dit que la belle-mère avait poursuivi Sade de sa hargne, c'est vrai, mais peut-être pas au début. Il semble qu'entre la belle-mère et Sade,
elle est surtout devenue irréconciliable avec son gendre. Après, lorsque, non content d'être marié avec sa fille,
il a enlevé la belle-sœur.
Oui, là, il est parti avec la sœur de sa femme en Italie. Et là, la vengeance familiale a été implacable.
Et puis les rapports avec sa femme, quand même. Maintenant, on le sait depuis...
Il faut dire ça dans la splendide correspondance. Ah, la correspondance de Sade, quelle merveille.
On s'aperçoit qu'il y a eu quand même une connivence, une complicité, femme et Sade.
Il l'aimait beaucoup. De toutes les femmes de Sade, je crois que celle qu'il faut signaler, c'est Madame Quesnay, qui a vécu avec lui de 1790 à 1814, donc lorsqu'il était en l'asile de Charenton. Donc c'est très long, quand même. C'est 24 ans. Oui. Et dont Sade dit d'une façon très énigmatique dans son testament qu'elle l'a ravi à la faux révolutionnaire.
Alors Raymond Jean, dans sa biographie, insiste beaucoup justement à propos de la femme de Sade sur la pièce de Mishima, Madame de Sade, dans laquelle, oui. cette pièce dans laquelle Mishima établit un rapport.
Oui. Oui, non, non seulement établit un rapport, mais dans la pièce de Mishima, ça se clôt plus ou moins sur Madame de Sade qui dit « Donatien, c'est moi ». Donc sur le fait, non seulement sur la complicité, mais sur le rôle essentiel qu'il aurait joué, au point même de peut-être être à l'origine de certains comportements de Sade. Bon,
c'est un
faux.
Beau fantasme.
Oui, non, bien sûr,
les
c'est un fantasme.
De Mishima nous intéresse, mais là, c'est un
fantasme. Oui, non, non, c'est un fantasme, bien sûr. Mais c'est quand même dire le trouble que provoque cette relation entre Sade et sa
on
femme.
On ne s'attend pas à ce que Sade ait des dévouements féminins. Or, il en a trouvé, notamment chez Madame Quenet. J'insiste sur elle parce qu'on n'en parle jamais. On parle toujours de sa femme, mais on ne parle jamais de cette Madame Quenet qui a été au fond sa femme.
Mmh. Mais vous avez évoqué le sadisme ménager. Et vous avez illustrer cela avec le ballet de Bruyère. Oui. Mais je crois que la notion de sadisme ménager pourrait avoir une envergure très particulière et très spécifique et finalement désigner ce qui est le véritable sadisme de Sade, indépendamment de ce que l'on entend psychanalytiquement par une perversion. Car le rapport entre Sade et sa femme, le rapport entre Sade et sa belle-mère, est un rapport qu'on peut qualifier véritablement de sadique, mais au sens positif du terme, au sens où cela correspond peut-être au projet de Sade d'établir un certain nombre de relations avec autrui qui ne soient pas des relations fondées sur les clichés de la tendresse et de la sentimentalité, mais sur quelque chose de plus fort et de plus hargneux, en quelque sorte.
Une nouvelle conception de la famille. Et on peut rappeler, à propos de la famille, que, par exemple, son valet, notamment Latour, a participé à de très nombreuses expériences, si l'on peut parler d'expériences.
Ce qu'il faut oublier, c'est quand même c'est un énorme écrivain, à mes yeux, probablement le plus important de la littérature française, et qu'il a écrit jusqu'au bout, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous avons ces livres d'une façon très étrange, parce que certains sont perdus jusqu'au dernier, les Journées de Florbel, là, probablement très beau, mais qui est à Charenton. Donc c'est l'énorme masse des textes de ça qu'il s'agit.
Alors non seulement il a écrit, mais maintenant on lui écrit aussi des textes, enfin on peut le dire, puisqu'il se sade contre l'être suprême publié au Quai Voltaire. C'est vous, Philippe Severs, qui l'avez commis.
Oui, c'est un faux plausible, n'est-ce pas? Je présente ça comme une lettre inédite de Sade à la fin 93, adressée au cardinal de Bernis, qui est tout à fait vraisemblable, qui est mort en 94, et une lettre qui serait donc de la veille de son arrestation sous la Terreur.
Oui, alors
Il entre en fureur. Une fureur tout à fait possible, tout à fait vraisemblable, mais qui est, pour moi, connotée à l'actualité immédiate dans laquelle nous vivons, contre, justement, le projet de culte de l'être suprême qui est en train venir à travers Robespierre.
Et puis, vous écrivez qu'il désavoue son action.
Sade disait, n'est-ce pas, si l'athéisme a besoin de martyrs, mon sang est prêt.
Oui. Donc il désavoue son activité à la fameuse section des Piques et notamment son hommage à Marat. Dans cette lettre, vous lui faites dire « je l'ai fait parce qu'il fallait bien quand même que je puisse me protéger ». Vous allez contre la thèse de Pauvert qui prétend que Sade était un extrémiste.
Pauvert fait de la falsification historique, n'est-ce pas? Il est en train de dire que Sade a été arrêté pour extrémisme révolutionnaire et que Robespierre avait peur de son extrémisme. Mais les documents que nous avons, le fond de la philosophie de Sade, au contraire de cela, n'est-ce pas, la phrase que j'ai mise en exergue à cette inédite Sade, c'est « ma détention nationale, la guillotine sous les yeux, m'a fait 100 fois plus de mal que m'en ont fait toutes les bastilles imaginables ». Ça, c'est une lettre à son avocat Goffredi qui est absolument indubitable. « La guillotine m'a fait 100 fois plus de mal que la bastille ».
Non, moi, je suis tout à fait d'accord. Il me semble que faire de Sade un extrémiste est une thèse totalement erronée.
Sade
est un modéré et on voit très bien ses réactions dans la lettre qui vient d'être citée face à la guillotine. Face au monstre assoiffé de sang, comme il désigne Robespierre et les gens qui l'entourent, et comment sans doute l'éloge de Marat et le texte sur le Pelletier sont des textes purement opportunistes parce qu'il s'agit de sauver sa peau.
C'est-à-dire
qu'il y a des craintes, il y a des moments où les écrivains sont obligés de payer.
Qu'il est aristocrate, qu'à cette époque-là.
Et c'est d'ailleurs
d'autant plus quand on est libertin.
Dans l'acte d'accusation, il y a deux choses. Il y a qu'il est modéré et que c'est ainsi devant, et un écrivain immoral.
Absolument. Trois choses se réunissent. Son éditeur, ce qui est peu connu, je le dis dans ce petit livre, son éditeur Giroir, n'est-ce pas, qui avait 36 ans, qui est l'éditeur de Justine, a été quand même guillotiné. Et je me suis servi dans cet inédit d'un livre admirable, je ne sais pas si vous en avez parlé à cette émission, qui est tout simplement la réédition du livre de Samson, du journal de Samson, c'est-à-dire la Révolution vue par son bourreau, qui est un livre d'une précision de détails extrême, c'est-à-dire comment fonctionnaient les exécutions. Alors, c'est assez fort à lire, je le conseille à tout le monde.
L'immoralité de Sade, c'était l'injure faite à Dieu, bien sûr.
Ou l'hypermoralité.
Et puis, la fameuse sodomie qui, à l'époque, quand même, enfin, on ne badinait pas avec.
C'était une transgression punie de mort dans le livre de Raymond Jean qui cite un certain nombre de textes qui ont paru sur. Sur Sade, il cite Barthes, et Barthes qui avait eu cette phrase assez drôle lorsqu'il parle justement de la séance blasphématoire à Jeanne Testard, où il demande à Jeanne Testard de se faire sodomiser avec une hostie consacrée. Barthes dit que finalement, pour un athée aujourd'hui, ça veut tout simplement dire qu'un homme copule avec une femme à tergo avec un peu de pâte de blé. Donc effectivement, en tout cas, la dimension de transgression...
C'est le point de vue protestant de Barthes.
De Barthes, peut-être. Mais enfin, évidemment, la transgression, lorsqu'elle est transposée aujourd'hui, n'a plus évidemment le même sens. Mais ça me semble pas le plus important. Mais moi, ce que je voulais dire...
Ne croyez pas ça, je crois que c'est toujours aussi transgressif, en réalité.
Oui, peut-être. En tout cas, pour ce qui est des questions soulevées par le livre de Raymond Jean, moi, je voulais quand même insister, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, de la grande finesse qu'il a d'analyser ce qui est toujours la pierre d'achoppement quand on parle de ça, c'est parler d'un côté de sa vie, de l'autre côté de son œuvre, soit de le tirer du côté effectivement du méchant marquis et d'en faire un cas clinique, ou bien alors à la limite d'en faire un homme bon, etc., mais de pouvoir séparer les choses, et de l'autre côté ne parler que de son œuvre, par exemple, que ça soit un énorme monument d'écriture. Et je trouve que Raymond Jean analyse très bien l'articulation, ou donne en cas des pistes pour y travailler, cette articulation entre le réel et l'écriture. Et il parle en particulier comment par écriture, ça pousse vers l'illimité, l'absolu, ce qui dans le réel était de l'ordre du limité. Et il raconte cette séance de fessée donnée à Rose Keller, qui était une fessée banale, tout compte fait. Enfin, ce n'est pas un monstre.
Ce que je trouve extraordinaire, c'est que pour Sade, qui a écrit une œuvre extrêmement gênante, on va toujours rechercher ce qu'il aurait pu faire, une fessée, des bonbons cantonnés, un blasphème, etc. Et qu'on ne s'interroge pas davantage sur les crimes extraordinairement intéressants qui se sont faits sous la terreur. Donc c'est comme si, pour éviter de parler de la terreur, ce qui est un problème très intéressant, l'industrialisation de la mort, en somme, c'est ça le fond du problème. Comme si on
peut dire
éviter, on évitait la mort.
On peut dire.
Je voulais quand même finir.
Ce qui révulse ça, n'est-ce pas, c'est que la mort soit devenue une entreprise industrielle.
Philippe, on peut dire ceci, qu'un sadisme peut en cacher un autre. Et on peut se demander si la construction de la renommée sadique de Sade n'a pas pour fonction, pour l'inconscient collectif, de cacher précisément ces massacres de la terreur, mais peut-être quelque chose de plus important,
les massacres de tous les temps,
savoir la position de Sartre à l'égard de l'être suprême. C'est peut-être le rapport de Sade à Dieu qui est l'essentiel dans la vision du monde qu'il a. Et on peut se dire que, par-delà les éléments strictement sexuels, la vocation principale de Sartre, c'est de démolir Dieu. Il prend au pied de la lettre la formule de Voltaire, que vous connaissez sans doute.
D'où son doute.
Écrasons l'infâme.
Mais absolument.
Mais d'en être fasciné.
C'est son travail, d'où sa stupeur et son émoi et sa fureur lorsqu'il voit bel et bien que la Révolution française débouche sur
le culte de l'être suprême.
Dont on parle très peu. N'est-ce pas ? Il y a eu quand même des fêtes.
Avec d'ailleurs un humour extraordinaire, puisque dans Eugénie de Franval, le père qui couche avec sa fille, donc qui pratique l'inceste, fait référence au mythe, au récit de Lot. Et il dit, j'ai toujours été pénétré d'un si grand respect pour les livres saints.
Ça, c'est la tradition.
Voilà le côté.
C'est la tradition de Mirabeau. C'est la tradition de Mirabeau. Mirabeau a constitué un livre érotique entièrement avec des extraits de la Bible. Donc je veux dire, c'est le démarquage de Mirabeau.
On peut dire qu'il prend la Bible au pied du phallus, en quelque sorte.
Alors, autre thème mis en évidence par Raymond Jean, c'est la place du théâtre. On sait que Sade était un fanatique du théâtre, un metteur en scène.
Il n'a pas que des bonheurs. D'ailleurs, ces pièces de théâtre sont parfois. Il y a une pièce que moi, que je trouve qu'on pourrait monter aujourd'hui, qui est la réponse, qui est une sorte d'écho du Tartuffe de Molière, c'est le philosophe soi-disant. Mmh. Ce serait magnifique de monter sur une scène, de même qu'il faudrait remonter le Mahomet de Voltaire pour voir si on peut le donner à Paris librement, de même il faudrait donner le philosophe soi-disant de Sade.
Enfin, il y a d'autres mises en scène qui seraient plus difficiles de redonner, pense en particulier des mises en scène érotiques que Raymond Jean présente comme des mises en scène, et je crois que c'est très juste. L'épisode de Marseille, par exemple, cet épisode des Clantarides avec toutes ces prostituées, il y a une place de l'inversion des rôles, du fait que son valet devient le marquis, que les personnages entrent, sortent.
Comme dans Don Juan.
Et effectivement, c'est du théâtre. Et il insiste. Enfin, je ne sais pas. c'est la raison ou tort, mais il dit que peut-être que s'il faut parler de perversion ou de Sade, elle serait plus du côté justement du voyeurisme et de l'exhibitionnisme que du côté du sadisme, et qui a toujours le besoin de prendre une, de voir.
C'est là où la thèse de Raymond Jean me paraît relativement discutable. Son livre est remarquable. Moi, il est écrit d'une manière quasiment sadienne, avec beaucoup d'allégresse. Mais pousser Sade dans une position notamment d'exhibitionniste me paraît, au fond, s'aligner un petit peu sur sa renommée. Car le nom de Sade a tout souvent été lié à la notion de monstre, comme d'ailleurs celui de Marat. Toute la liaison Marat-Sade comme image de la monstruosité.
Absurde.
Mais je crois que Sade pratique, pour essayer de récupérer ce terme de monstre, une démonstration. Il s'occupe de ce qui est monstrueux dans la réalité, aussi bien la réalité politique, historique que religieuse, Dieu en tant que Dieu des armées, Dieu vengeur, Dieu qui tue, et il essaye de le démontrer en quelque sorte. D'où, de sa part, non pas une attitude passive d'exhibitionniste, en quelque sorte, mais bien au contraire, l'attitude active et militante de quelqu'un qui démontre.
Ce qui m'a toujours intéressé, c'est de voir que presque personne ne sait ce que veut dire le mot Sade.
Et ça veut dire gentil,
ça
doux.
Ça veut dire agréable, qui a de la saveur. C'est exactement le contraire de maussade. Ce qui est bizarre, c'est que ce mot merveilleux de la langue française a disparu. On dit toujours que les gens sont maussades, mais on ne dit jamais qu'ils sont sades. Et voilà, Sade, c'est le contraire de maussade. Pour ne pas être maussade, lisez Sade.
Pour Sade, donc Raymond Jean, un portrait de Sade chez Actes Sud. Donc ce faux Sade, Philippe Solaire.
Ce faux vrai Sade, comme on dirait.
Ce vrai Sade. Contre l'être suprême Sade, c'est un petit livre qu'est Voltaire. Et puis je rappelle Annie Lebrun, Sade aller-retour chez Plomb. Enfin la réédition du classique Gilbert Lely, La vie du marquis de Sade au Mercure de France. Passons à Rétif de la Bretonne, que l'on a parfois tendance à mettre un peu trop rapidement dans le même sac que Sade.
Ah, Rétif de la Bretonne. Sade n'aurait pas été content. Hein,
ouais, non, pas
Rétif non plus.
Rétif de la Bretonne avec la réédition, enfin je ne sais pas si on peut dire l'édition, oui, la réédition du Curé Patriote. C'est un livre qui n'avait jamais été republié, donc depuis 1790, dans son intégralité. On n'avait publié que des fragments. C'est l'histoire, c'est l'histoire d'un curé. Enfin, en deux mots, c'est l'histoire d'un curé qui découvre le plaisir par hasard avec sa gouvernante, et puis il ne s'arrêtera plus. Il fera des enfants à chaque femme, tout y passe, les jeunes filles, les femmes mariées, celles qui sont mariées à un homme défaillant, les veuves, les célibataires. Et comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, eh bien, le curé se fait accoucheur, puis il s'occupe du sort des enfants, et il parvient toujours à dissimuler ce qui doit l'être, c'est-à-dire les grossesses, les accouchements, etc. Enfin, il y a vraiment un sens, oui, de l'organisation du plaisir,
si
qui est absolument
dire,
extraordinaire.
C'est très gynécologique.
Moi, je trouve ce texte, bon, qui n'est pas un des grands textes de Rétif, un texte amusant parce qu'on y retrouve à peu près toutes les grandes obsessions du XVIIIe siècle, et celle de Rétif en particulier. Première obsession, c'est l'obsession démographique. Les hommes, oui, du XVIIIe siècle sont obsédés par la démographie parce qu'ils pensent que la Terre se dépeuple et que l'on va vers une fin de l'espèce, donc il faut, oui, se reproduire, et que la population est un capital. Donc ils sont tous démographes et natalistes. Alors à un point qu'on a
sauf Sade,
le tournant,
c'est comme tu n'auras jamais assez de gens.
C'est le tournant avec Sade et la Révolution et les théories de Malthus qui sont sur, oui, le point
on
d'apparaître.
On peut rappeler que Rétif justement était d'origine paysanne, alors, et que la terre pour lui était la suprême valeur.
Absolument. Alors la deuxième obsession de Rétif,
ça nous amène à la fécondité de Zola. Après,
oui. La deuxième obsession de Rétif, c'est l'obsession bien entendu des prêtres païens. C'est une obsession traditionnelle, donc du prêtre dans les couvents qui profite de son état et de sa soutane pour se livrer à des pratiques qui ne sont pas de son état, comme l'on disait. Et donc, il y a l'obsession du prêtre. Il y a les obsessions propres à Rétif, qui a catalogué ses conquêtes, les a gravées dans la pierre dans l'île Saint-Louis. C'est beau, ça, mes inscriptions, toutes les femmes qu'il a pu séduire. Et il y a même les obsessions fétichistes du pied qui apparaissent dans ce texte. Il y a tout Rétif est réuni. Mais je dirais que s'il fallait opposer Rétif à Sade, et je crois qu'il s'oppose profondément, c'est une sorte de, je dirais, de grivoiserie jubilatoire. Oui. Hein, il est tout content, ça ne pose pas de problème. Et quand il a voulu s'élever contre ça, il a écrit une anti-Justine, en retirant de Justine toute la notion de violence et toute la notion de douleur. C'est réduit à une sorte de plaisir, de jouissance, partagée d'ailleurs.
Ce curé libertin patriote représenterait l'homme nouveau, l'homme vertueux, qui, sans déchirement, avec... Oui, l'homme bon, oui, qui
bon, c'est le réformateur. Mais Grégoire,
c'est le,
la, je oui, crois que issu, ne s'est pas reproduit autant que
donc c'est... l'homme nouveau issu de la Révolution, c'est ça.
Oui, ce enfin, je dirais que c'est. Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'il a juste dans les 20 années qui précèdent la Révolution, Rétif a produit des projets de réforme qui sont tout à fait fascinants parce qu'ils sont systématiques. C'est le tesmographe, c'est le pornographe, c'est le gynographe, etc. Pour essayer d'organiser la société selon un ordre, quelque chose de terrifiant. Je dirais quelque chose de terrifiant dans ces textes parce que les horaires sont prévus de 0 heure jusqu'à 23h59. Et il y a un projet de réforme de la prostitution. On organise les maisons de prostitution et on transforme les prostituées en des femmes pouvant servir la démographie. Ce qui est quand même un paradoxe. Et donc, à ce moment-là, les enfants sont recueillis, élevés en commun. Donc, c'est en fin de compte l'application au domaine révolutionnaire, à la constitution civile du clergé, aux prêtres de type nouveau, de vieilles idées qui sont des années 70. Il y a là quelque chose qui est très étonnant.
Comme voilà pour le curé patriote, donc Rétif de la Bretonne.
Mais c'est un texte amusant à lire. Oui.
Hein, amusant, oui, mais très, on peut discuter la notion de libertinage. Qu'est-ce que c'est qu'un libertin? Il n'y a pas de description du plaisir véritablement là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a une jubilation peut-être de la part de Rétif dans les mots, mais il n'y a pas de justification du plaisir autrement que dans une réforme qui accentue la démographie et surtout qui s'en prend évidemment à la sexualité, parce que c'est la frustration que dénonce Rétif. Oui. Il a 72 enfants. Ce curé au 1er janvier 1790, évidemment c'est pas un hasard, juste après la Révolution. D'autre part, il est riche, il peut entretenir tout le monde, et la frustration par exemple des religieuses est décrite parce que justement la sexualité ne doit pas être freinée.
Oui. C'est un des grands thèmes du 18e. C'est la religieuse.
En fait, c'est un livre qui n'est pas tellement érotique, il n'y a rien de scabreux, c'est même pudique, puisqu'il fait l'amour, il l'écrit pour faire l'amour, faire une aventure. Belle périphrase quand même.
Oui, non, mais je dirais Rétif n'est pas un écrivain pornographe, hein, ni un écrivain obscène, c'est un écrivain avec beaucoup...
D'où contresens complet, justement, absolument. Sur le pornographe.
C'est, oui, le pornographe, c'est, oui, un le projet pornographe. C'est un projet de réforme des maisons de prostitution et de la pratique de
par
l'amour
rapport
public.
À ça, je dirais simplement que pour se figurer le rapport...
C'est pas révolutionnaire.
Rétif est à Sade ce que Wilhelm Reich serait à Sigmund Freud.
Oui, bon, attendez, on en reste là, donc, parce que ça sera merci une autre pour émission. Rétif. Rétif de la Bretonne, le curé patriote au castor astral. Passons à Jean-Paul Marat. Alors, Marat, il faut peut-être rappeler quand même un certain nombre de faits à propos de Marat, parce que c'est quelqu'un sur lequel on a dit beaucoup de choses contradictoires, que vous n'aimez pas du tout, Philippe
Marat.
Solers, oui.
Ah ben, non,
et quand même, là, on découvre...
Il faut aller droit au tableau, là,
oui,
le fameux tableau.
Quand même, il y a un fait qu'il faut peut-être mettre en évidence, c'est qu'en 1789, Marat a 46 ans, c'est-à-dire qu'il a, je crois, 16 ans de plus que Robespierre et 23 ou 24 ans de plus que Saint-Just.
Il pourrait donc être le père
il pourrait être le père de Saint-Just.
De la Révolution, et un père qui est un père de très grande amplitude.
Un père sévère.
Car c'est pas si sévère que ça, un père assez tolérant, un père qui a roulé sa bosse, parce qu'il a une formation médicale.
Oui, on a très discuté, comme vous savez, cher ami.
Apparemment, d'après les indications de...
Non,
je suis désolé,
il a quand même été pris
à commettre un faux au concours académique de Rouen. Il s'est présenté pour avoir un prix académique dans plusieurs académies, et il a été pris la main dans le sac à monter un concours avec des absolument
faux. En Angleterre, il semble qu'il était accepté.
Il est un disciple de Mesmer et du magnétisme, qui est absolument condamné, et je dirais qu'il y a une troisième chose.
Vous le condamnez aujourd'hui, à posteriori.
Qui est absolument condamné à l'époque. Le mesmérisme est condamné à l'époque. C'est quand même quelque chose de très
marginal. En Angleterre, il a été reconnu, il avait soigné une épidémie avec succès et fait citoyen d'honneur de la ville de Newcastle.
Oui, je crois que c'est un fait aussi.
Est-ce que vous connaissez le mot drôle, quand Marat était donc... poignardé de façon très esthétique d'ailleurs par Charlotte Corday. Il y a un mot, je crois que s'il est de Burke.
Esthétique
ou un autre,
a posteriori toujours.
Oui, on va voir comment peut-être tout à l'heure. Il y a un mot, je ne sais pas s'il est de Burke, un anglais en tout cas, qui a dit, comme c'est dommage, il était donc dans sa baignoire à cause de son eczéma, et Burke a dit, quel dommage pour une fois qu'un Français prenait un bain.
Oui, alors donc Marat est un personnage très contradictoire. On a parlé récemment de la réédition de son livre Les chaînes de l'esclavage, qui est un livre tout à fait surprenant, dans lequel il y a toutes sortes de
dont
choses.
Dont on n'a jamais retrouvé l'édition à laquelle il a fait référence, qui sera antérieure à la Révolution. Cette édition n'a jamais été trouvée. La seule édition que l'on connaît, c'est une édition qui est du 19e siècle. Lui a prétendu qu'il l'a publié avant la Révolution comme un texte prophétique. On n'a jamais retrouvé cette édition.
Oui, mais enfin, même la lecture aujourd'hui de ce texte reste quelque chose d'assez surprenant. Assez, alors maintenant, nous avons un roman signé donc Jean-Paul Marat.
Oui,
il est vrai, non ?
Il est vrai.
Bon. Alors, il est vrai, c'est un roman dans lequel Marat prouve qu'il connaissait très bien l'histoire politique de son époque, et notamment celle de la Pologne qui était déchirée entre ceux qui voulaient la protection de Catherine II, c'est-à-dire plutôt les amis de Voltaire, et puis ceux qui, au contraire, étaient pour les patriotes, les nobles qui se révoltaient contre Catherine II.
Et qu'on appelait les confédérés.
Et qu'on appelait les confédérés.
Et qu'il réussit d'ailleurs à inscrire dans son roman d'une manière qui est admirablement articulé,
alors,
en un sens.
Alors,
un roman qui est quand même un roman d'amour.
C'est un roman d'amour, oui. C'est un roman d'amour. Enfin, je vais citer une phrase que l'on peut lire dans ce roman. Le héros, qui s'appelle le comte Gustave Potofsky, dit à un moment « J'entrevis sous la gaze deux petits charmes naissants que Cupidon semblait avoir placés lui-même. À cette vie, je sentis palpiter mon cœur. »
Comme c'est mignon.
Marat.
Comme c'est mignon.
Il aurait dû écrire des choses comme ça.
Oui, voilà.
C'est
l'ennuyeux, c'est que quand on écrit des choses comme ça, et quand on a des choses comme ça dans la tête, c'est comme les poèmes de Saint-Just, dans la réalité, au contraire, on devient quelqu'un.
Non, c'est assez brutal.
C'est pour ça que je préfère ça, d'écrire des choses
horribles. Le problème est de savoir si...
Alors, le roman, c'est l'histoire de ce comte Potofsky qui tombe amoureux d'une jeune fille, mais pour obéir à son père, il suit les confédérés, alors que la jeune fille est plutôt de l'autre bord, si bien que ça va très mal se passer. Et puis il y a une amie qui, en plus, alors ça, qui est le personnage noir par excellence, qui va tenter de brouiller tout le monde parce qu'elle voudrait récupérer justement le comte Potofsky pour elle.
Effectivement, c'est une histoire d'amour qui finit bien entre un jeune homme charmant et une jeune fille pleine de charme. Il y a beaucoup de larmes, beaucoup de baisers tremblants, etc. Ce qui est très très puritain, parce qu'il y a un certain nombre de tirades contre le libertinage de l'époque, mais il faut dire quand même que le personnage le plus intéressant, c'est quand même la libertine. C'est vraiment la méchante, celle qui essaye de piquer le jeune homme à l'autre. C'est la seule qui a une véritable épaisseur romanesque, qui soit réellement décrite, qui existe. Les autres sont des silhouettes un peu fadasses, et visiblement Marat ne s'intéresse qu'à elle.
Épaisseur romanesque et même un peu d'épaisseur charnelle, dans la mesure où c'est elle qui cherche à le séduire très concrètement, en s'enroulant littéralement autour de lui. Mais je crois quand même qu'il ne faut pas trop simplifier le fait que Sade, écrivant le libertinage sous sa forme la plus extrême, se trouve immunisé relativement au passage à l'acte historique. Tandis que Marat, tombant dans une sorte de sentimentalisme... Oui, mais les faits ne vous disent pas qu'il y a l'articulation entre le sentimentalisme de la littérature de Marat avec ce petit livre « Les aventures du jeune comte Potofsky », qui est sentimentaliste, qui est un livre mineur.
L'hypothèse, comme quoi les bourreaux sont sentimentaux, me paraît tout à fait fondée.
Non, vous paraît fondé. Ah non, non, parce que d'abord...
Tous les bourreaux aiment la poésie.
Vous savez pas. Non, ils aiment aussi les chats.
Les serins comme Goebbels.
Non, c'est justement contre cette image sommaire, je crois qu'il faut s'élever, surtout à l'heure actuelle, pour essayer de restituer à Marat une dimension que l'histoire ne lui a pas finalement donnée, dans la mesure où il a été lui-même caricaturé comme l'a été Sade à sa manière.
Le livre dont on parle est après les liaisons dangereuses de
c'est
la
pas pour rien qu'il y a le Marat Sade, Peter Weiss a fait Marat Sade, et je crois qu'il faut faire une liaison entre Marat et Sade, vous ne faites pas précisément.
Non, parce que ça, c'est une thèse allemande, justement.
Les Allemands, ils peuvent avoir de très bonnes thèses.
Non, ils se trompent toujours, les Allemands.
Ça, c'est du chauvinisme.
Ils se trompent toujours sur la France.
Non.
Ce livre de Marat est quand même postérieur au livre magnifique de Laclos, qui est paru en 1782. C'est les liaisons dangereuses.
Ah oui, bien sûr, mais il ne s'agit pas de faire des comparaisons de ce genre.
Ah, mais si, il faut les faire.
Si, on y pense. Quand la méchante, elle fait acheminer des lettres de façon détournée pour faire croire que. Visiblement, il y a quelque chose à
donc,
voir.
Donc, Laclos est déjà venu.
Non, ce que je trouve intéressant, c'est de comparer ce livre d'un sentimentalisme presque nié aux écrits journalistiques de Marat. Parce que quand on se rappelle Marat avec sa gazette, l'ami du peuple, et qu'on voyait le côté perspicace qu'il avait même bien avant les autres journalistes politiques de l'époque, il était le premier, par exemple, à trouver que Mirabeau était acheté par le roi.
Et il avait une chance de tomber juste.
Oui, absolument. Et cette méchanceté féroce, mais en même temps incisive qu'on trouve chez lui, est en contradiction totale avec ce roman.
Non, bah justement.
Les aventures, on est obligé d'en rester là. Les aventures du comte.
À Philippe Solers, quand même, qu'il y a eu quelques livres allemands importants publiés sur Sade aussi.
Oui, lesquels?
Durer.
Oui.
Eugène Durer.
Oui, bien sûr. Qui était bibliographe, un livre clé d'un anarchiste qui a précisément établi la bibliographie des écrits de Sade, qui a commencé.
Espérant que c'est très important.
Si c'est un anarchiste, il est très bien.
De faire du chauvinisme anti-allemand.
Les Allemands peuvent être anarchistes aussi.
Au salon du livre aujourd'hui, il faut quand même mettre les choses un peu au point.
Les aventures du jeune comte Potofsky, Jean-Paul Marat aux éditions Renaudot. Alors, venons-en à présent à,
Voltaire. Admirateur de l'Allemagne.
De Voltaire.
Alors, oh,
Voltaire,
comment ça ? Quelle idée. Admirateur de l'Allemagne. Quelle idée de l'Angleterre, oui, pas de l'Allemagne.
Voltaire, un numéro spécial donc, de l'Infini qui est consacré à Voltaire avec des inédits. C'est des vrais inédits cette fois-ci
non,
ou
c'est,
non
c'est à l'université. C'est Magnan, qui est un très bon spécialiste de Voltaire, qui a jugé justement utile de rassembler dans la correspondance de Voltaire pour en faire comme une sorte de petit roman toutes les lettres que Voltaire écrit à propos de ses relations avec Frédéric de Prusse. Oui. Vous disiez, Candide, peu de gens savent encore que Candide apparaît, hein, après la fameuse histoire, la brouille entre Voltaire et Frédéric de Prusse, ça s'est terminé quand même très mal. Ça. Le sous-titre de Candide, c'est traduit de l'allemand, hein, donc superbe ironie. Donc voilà, il y a ces lettres et ça permet de relire alors, la splendide correspondance de Voltaire dont on ne se lasse pas. Il y en a 12 volumes dans la Pléiade, Avis aux amateurs.
Alors,
ça peut remplir une vie.
Dans ce numéro, il y a deux articles qui sont consacrés au rapport entre Céline et Voltaire. Et vous rappelez, c'est pas vous qui avez fait cet article, mais ce mot de Céline qui disait « Voltaire me fait jouir ».
Oui, c'est un des rares auteurs dont Céline a toujours dit le plus grand bien. Et le parallèle entre, je crois que c'est un des auteurs qui fait ça, entre Bardamu et Candide me paraîtrait juste. C'est un auteur qui a hanté Céline. Voltaire me fait jouir, disait Céline. Je crois qu'il y a toute une... Alors, il faudrait faire, le tri des écrivains qu'on peut considérer comme voltairiens. C'est pour ça que j'ai mis aussi un inédit de Gombrowicz. Oui. Flaubert adorait évidemment Voltaire. Flaubert et Kafka. Ça.
Et vous déplorez, d'ailleurs, à juste titre, que ce terme de voltairien, que l'on dilapide littéralement lorsqu'on veut qualifier quelqu'un, en réalité, s'applique très rarement. Le malheur, c'est qu'il n'y a pas probablement assez de voltairiens.
C'est pour ça qu'on a fait ce numéro, c'est-à-dire que les voltairiens, on les cherche avec une bougie. On demande à voltairien, ce qui m'avait frappé simplement, on y pensait depuis un an et demi, mais rappelez-vous qu'au moment de l'affaire Rushdie, il y a eu, je crois, une centaine d'intellectuels musulmans qui courageusement se sont rassemblés place du Trocadéro avec une pancarte « Voltaire au secours hein. ». Oui. Et en effet, ça c'est...
Vous dites qu'il n'y a pas de voltairianisme possible.
Non, parce que ça demanderait une... Je crois que ce qu'on a appelé le voltairianisme est un élément, un terme de polémique bourgeoise et cléricale qui a obsédé le 19e siècle, le 20e siècle. C'est toujours, ça serait comme le bourgeois éclairé. Je n'ai jamais rencontré de bourgeois éclairé voltairien. Voltaire, c'est un héros de la pensée critique. Il faut lire sa correspondance pour voir comment, jusqu'à la fin de sa vie, n'est-ce pas, il a une technique de la critique admirable, fulgurante. Nietzsche aimait beaucoup Voltaire, n'est-ce pas, le joueur de flûte de l'incroyance. Les hommages que rend Nietzsche à Voltaire sont constants. Sans Voltaire, dit-il, voilà.
Vous suggériez
le progrès vers Voltaire, c'est Humain trop humain de Nietzsche qui est dédié à Voltaire, pour le 100e anniversaire 1878.
Enfin, de tout ce...
tout chemin, le progrès vers Voltaire, dit Nietzsche, est un progrès vers moi-même.
Tous les Allemands qui ont admiré
Nietzsche ne se voulait pas allemand, comme vous savez, monsieur. il avait horreur.
Non, il écrivait en français.
Vous n'avez qu'à relire Ecce Homo. Il faut en parler aujourd'hui au Salon du Livre.
Il
le réquisitoire le plus violent contre l'Allemagne a été écrit par Frédéric Nietzsche, qui se préférait polonais à la rigueur.
Ça n'a rien à voir, c'est la culture allemande, qu'on le veuille ou non.
Ah, il a horreur des Allemands. Bon, faire Georges Bizet à Wagner, pour finir.
C'est la culture allemande.
Quel paradoxe, il n'hésite pas.
Bon. Alors, de toute façon...
Il annonce de grandes catastrophes à cause de l'Allemagne, et nous les avons eues.
Lionel. Falsifié, il a joué aussi un autre rôle. Bon, enfin, le problème n'est pas là, c'est que Voltaire, typique de l'esprit français, a eu une... Oui, considéré comme typique de l'esprit français, a eu une énorme importance pour les Allemands, justement.
Détourné
du tout. Heinrich Mann, par exemple, admirait Voltaire.
Oui, mais il ne suffit pas d'admirer Voltaire, il faut le pratiquer dans la réalité.
Mais précisément parce que c'était
un avare.
Enfin, Hitler n'aimait pas Voltaire.
Hitler n'aimait pas Voltaire.
Non.
Ah, vous êtes sûr de ça.
Et les rapports avec
Heidegger non plus. Faisons gros.
Il a toujours été fêté dans les démocraties populaires, Solaire. Comme vous savez très bien.
Il était on peut très bien aimer Voltaire et mettre les gens en prison.
Non, pas du tout. Voltaire a toujours été suspect de.
Ah, je suis désolé. Les grandes études ont
eu lieu. Et moi aussi, je suis désolé.
Les grandes études
Diderot à la rigueur,
ont eu lieu en Voltaire
est mort riche, c'est très suspect.
Dans les années 20, et ça a été des pseudonymes. Il y a des lettres faites par Marty d'Union soviétique en 1942, le nouveau Candide, on prend Voltaire pour essayer de montrer comment les communistes apporteront la liberté. Alors, je veux dire, Voltaire, c'est une cuisine aussi qui peut avoir des piments différents. Je ne crois pas qu'il faille. En lui-même, il ne produit pas exactement ce qu'il devrait
mais
peut-être
parce
produire.
Que Voltaire est
moi, je trouve qu'il est
centriste,
trop français. Étant tellement français, je trouve qu'il a quelque chose qui, moi, me donne la distance par rapport à lui.
Oui, je dirais qu'il est un centriste, au sens même actuel du terme. Sauf que ce centrisme-là, il l'utilise pour pratiquer ce que Soler s'appelle justement le principe d'ironie, le principe d'une critique tous azimuts. Mais à la fois, il est extrêmement critique et comme tel, il est difficile de le récupérer et on peut dire qu'il n'y a pas véritablement de voltairianisme. Mais en même temps, comme il est centriste, on peut le mettre effectivement à toutes les sauces.
Mais je voudrais ajouter quand même que le cabaret Voltaire, qui est à l'origine du dadaïsme, pour contredire Philippe Soler, le cabaret Voltaire s'est fondé par des Allemands.
Voltaire, donc, ça va numéro
avec le style de Voltaire, qui tout simplement est un très grand écrivain. Dont nous avons besoin. Et on dit toujours c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. On met Voltaire et Rousseau. Rousseau, en effet, a été l'auteur des vertus terroristes, n'est-ce pas? La guillotine d'un côté, Rousseau de l'autre. Voltaire.
Mais on a l'impression que
Voltaire est absent de la terreur.
Oui, mais lorsque vous
le premier homme au Panthéon, quand même.
Je termine cela. Lorsque vous occupez d'un auteur, on a toujours l'impression que vous êtes hanté par le désir de pratiquer un culte de la personnalité.
Je suis passionné
c'est
par les écrivains.
Parce que Roland Barthes,
j'ai le culte de la personnalité
Lacan,
des
écrivains. Lacan, Mao, mais non, pas seulement des écrivains, même aussi des hommes politiques.
Je vous laisse Lacan et je prends Voltaire.
Mais je vous renvoie Mao.
Eh bien justement, on va parler de Barthes. Après avoir rappelé que Voltaire, numéro spécial avec des inédits, l'avant-dernier numéro de l'Infini. Alors, Barthes avec la réédition de Images, Raisons et Déraisons, qui avait été publiée déjà il y a en 72-73.
Il y a un très beau texte de Barthes, si je peux me permettre, un très beau texte de Barthes sur Voltaire, qui d'ailleurs est en préface maintenant au Conte des Romans, en folio, où il dit Voltaire est le dernier des écrivains heureux.
Oui, un texte un peu ambigu quand même.
Oui, mais très beau.
Ce texte de Barthes, donc, sert et cette fois-ci explique les fameuses planches de l'encyclopédie qui sont exposées au musée de Pontoise. Chaque vitrine présente un panneau avec ces planches de l'encyclopédie. Et sur la vitrine, il y a un extrait du texte de Roland Barthes qui commente à sa façon ces planches d'Diderot, d'Alembert.
Oui, alors, on peut lire actuellement le texte de Barthes qui a été republié en livre de poche, mais on ne pouvait pas le lire en rapport avec les planches de l'encyclopédie. La nouveauté de l'exposition du musée de Pontoise et du volume que le musée de Pontoise a publié, c'est qu'il y a en regard le texte de Barthes et les planches de l'encyclopédie.
C'est très important parce que les petits détails de la prose renvoient à des choses très précises.
Absolument. L'image et le texte ont une sorte de rapport de tissage et c'est tout à fait remarquable de voir l'acuité de l'analyse de Barthes, qui a une espèce de regard. Bon, par exemple, il a très bien déterminé les deux parties des planches de l'encyclopédie, cette partie qui est en haut, la partie qui est en bas qui montre les éléments séparés de la figure qui est en haut de la planche. Il a tout un travail sur le texte, sur la poétique des planches de l'encyclopédie, sur les rapports entre la matière brute et l'objet fabriqué. Il y a des choses tout à fait remarquables. Je dirais que pour moi, il y a un autre type de lecture qui est possible, qui est celle qui a été faite par Jacques Proust, qui montre comment, quand on lit avec beaucoup de soin, regarde avec beaucoup de soin les planches d'encyclopédie, on s'aperçoit d'un monde social derrière qui n'était pas le propos de Barthes, il ne s'agit pas de lui en faire procès, mais qu'on peut voir aussi un monde extrêmement cruel, c'est-à-dire que les mains sont toujours blanches et parfaitement parfumées.
Ce qui nous a frappé, c'est que Barthes, on a l'impression que le mal social n'est pas là. Et moi, je trouve qu'il a assez raison.
Et moi, je pourrais montrer qu'il est là.
Ce qui est très troublant.
Oui, vous dire que dans la planche, par exemple, sur les couvreurs, quand on regarde de près cette planche, on est en train de transporter dans un coin, sous la porte en arceau, un couvreur qui vient de faire une chute et qui est mort. Je veux dire que quand on regarde de près les planches, il y a tout un petit dessin, un petit coin. Seulement, Barthes n'a pas
la mort. Mais ce qu'il a vu très bien, à mon avis, c'est que la mort, les écorchés, les organes, les tempêtes, avec des petites lettres qui indiquent où est le tourbillon, etc. Mais tout ce qui est pathétique est complètement distancié. Ça, c'est peut-être ça l'esprit. L'esprit des Lumières et l'esprit de l'encyclopédie, c'est qu'on va se mettre une bonne fois pour toutes à distancier tout le pathos humain. C'est pour ça que c'était une révolution. C'est pour ça que, d'ailleurs, que l'Église a été très, très, très soupçonneuse, parce que si on enlève le pathos, la religion s'effondre.
Oui, alors il faudrait aussi rappeler, ça c'est important, que les planches n'ont pas été faites pour l'encyclopédie, pour beaucoup d'entre elles, mais qu'elles ont été volées par les gens de l'encyclopédie à une autre entreprise de librairie. Donc que le rapport entre la planche et le texte devient un rapport extrêmement problématique.
Il faut dire que ces graveurs sont admirables. Ces gravures sont tellement belles. Et Barthes n'en parle pas, justement. Il n'a pas un mot pour ces artistes fabuleux
qui sont tout à fait remarquables.
Voilà, les planches de l'encyclopédie.
Et c'est une très belle exposition.
De Diderot et d'Alembert, vue par Roland Barthes. C'est un ouvrage et c'est une exposition au musée de Pontoise. On va terminer avec les journalistes de la Liberté. Alors, dans cet ouvrage, il est beaucoup question, oui, bien sûr, de Voltaire, de Mirabeau, de Desmoulins, Madeleine Camabano.
Oui, absolument. C'est les journalistes de la Liberté. C'est les journalistes qui sont liés aux États généraux, finalement, parce que la liberté de la presse, née à ce moment-là, avec Mirabeau qui se moque de la censure et qui premier, le premier publie un hebdomadaire libre sans autorisation, et ça va être l'explosion puisque le 19 mai le gouvernement cède avec une restriction aux rencontres des états généraux et ça devient une sorte de journalisme parlementaire, un journalisme commentaire en même temps.
Est-ce qu'il est question de l'ACLO dans
oui, absolument.
Parce
absolument,
que une des choses qu'on ne sait pas assez, c'est que l'ACLO a été un journaliste très important pendant la Révolution. C'est lui qui est responsable du journal des Amis de la Constitution, Jacobin. Hein.
Oui,
donc
mais...
oui, avec le Durand. Mais enfin, ça a été un journaliste tout à fait engagé. Oui.
Il faut rappeler deux choses. C'est que, premièrement, la liberté de la presse, la liberté d'opinion est en germe, puisque dans le règlement qui convoque les États généraux, on appelle à l'avis. On appelle à l'opinion des gens éclairés, donc il y a la possibilité d'une ouverture dans laquelle vont s'engouffrer tous les gens qui veulent faire de la presse.
Il y a déjà une demande dans les cahiers de doléances.
Absolument. Dans les cahiers de doléances urbains et souvent aristocratiques et bourgeois. La deuxième remarque, c'est cette liberté de presse, elle va complètement s'effondrer après le 10 août 92, c'est-à-dire après le déclat, le régime républicain, voilà, la fin des Girondins, la liberté de la presse est complètement...
Pas seulement la liberté de la presse, c'est la presse même. Parce qu'à ce moment-là, dès que la presse royaliste est interdite, on ne peut plus parler de presse. Parce que ce côté jubilatoire et les joutes oratoires qu'ils avaient entre eux disparaît quand il n'y a plus que le côté révolutionnaire.
C'est la grande terreur.
Oui, une autre remarque, c'est que les journaux, il faut bien le rappeler, ne sont pas du tout des journaux comme aujourd'hui. Ce sont des sortes de petits livrets sans images, avec une densité, et qui étaient sans doute lus. C'est-à-dire il y avait une lecture publique des journaux, si bien que c'est une étrange chose que le journal sous la Révolution, c'est une médiation entre l'oralité et l'imprimé.
Oui, l'imprimé il y a la étant, quand même, voilà. Qui va servir
rédigé souvent, on oublie ça aussi, par un seul homme.
Par un seul homme aussi,
qui fait tout. Qui fait le même courrier.
Par un seul homme, justement.
Marat et l'ACLO.
Marat était seul, les gens comme Mirabeau avaient tendance à écraser la rédaction. Mais il y a de vrais.
Des Moulins rédigeaient tout ça.
Oui, des Moulins aussi, mais il y a de vraies rédactions quand même qui se forment, par exemple avec Loustalot, qui va être le premier journaliste reporter parce qu'il va faire le reportage sur la prise de la Bastille, la dernière. D'ailleurs, il y a un extrait de cette prise de la Bastille avec témoin Beaumarchais qui était là, qui lui regardait ces fenêtres qui étaient en construction.
Quelle époque, hein.
Oui, je pense que c'est un grand moment de la presse, c'est l'invention de la presse moderne, au sens de la presse d'intervention, mais d'une presse qui est aussi une presse d'incitation, où il n'y a pas de séparation entre souvent l'événement et son commentaire.
Oui, absolument. D'ailleurs, on voit que c'est la différence entre la presse française et la presse anglo-saxonne, parce que là, le commentaire prime l'événement presque.
Les journalistes de la liberté de la Manneville chez Grasset. Nous en restons là pour aujourd'hui. Demain à midi, le panorama débutera avec nos invités Michel Graisset et Jean-Paul Dubois. Et